Les trafics des êtres humains, et particulièrement des enfants, prend de plus en plus de l'ampleur en RDC. Usant des subterfuges de toutes sortes, les auteurs de cette activité profitent souvent de la naïveté des parents et de la naïveté des victimes à qui ils promettent monts et merveilles. Le dernier cas en date est celui de plus de 400 Congolaises vendues comme esclaves sexuelles au Liban. Que dit la loi congolaise sur les trafics des enfants? Quelles sont les sanctions qui sont réservées aux coupables? Maître Guylain Maléré, juriste indépendant, il est notre invité. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Et comment la loi définit d'abord le trafic des êtres humains et particulièrement les trafics des enfants?
Il faut signaler ici que la question du trafic des enfants et des êtres humains en général, c'est devenu une activité très lucrative au niveau, que ce soit international, que ce soit, n'est-ce pas, national. De sorte que même au niveau des Nations Unies, il existe des instruments juridiques qui parlent de ce phénomène là-bas. Et donc, d'une manière générale, on parle de trafic d'enfants. Dès que ces enfants sont déplacés, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur des frontières, par la force, par la coercition ou la ruse, et lorsqu'ils sont placés dans des situations où ils sont exploités économiquement ou sexuellement. Et donc, c'est le cas, par exemple, des enfants qui sont exploités, enlevés, exploités comme enfants soldats, comme travailleurs main d'œuvre à bon marché, comme domestiques, comme esclaves sexuels, comme prostituées, etc. Et donc, c'est le fait, justement, de déplacer ces enfants-là de leur milieu naturel de vie. Vous le savez, je vous dis, la loi portant protection de l'enfant, duquel l'enfant a le droit de grandir dans son milieu familial, à côté de son père et de sa mère, ou alors de son tuteur. Et donc, déplacer un enfant en dehors de ce cadre là-bas, par la force, la ruse ou tout autre subterfuge, afin de l'exploiter économiquement, sexuellement et sous autre forme d'exploitation, eh bien, on est dans le trafic d'enfants.
Et généralement, ça s'est fait en réseau. C'est par exemple le cas de ces Congolaises, plus de 400, qui se sont retrouvées au Liban.
Oui, c'est tout un système organisé, je vous dis, parce que vous avez des pays pourvoyeurs d'enfants, vous avez des pays qui accueillent ces enfants-là, et au milieu de cette chaîne-là, vous avez des maillons, des trafiquants, vous avez même parfois des complices au sein des familles. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être une complicité dans un but de se faire de l'argent, mais ça peut être aussi une naïveté due à la pauvreté qui fait que l'on fait croire facilement à ses parents de familles pauvres que les enfants sont promis à un avenir meilleur, et là où on les amène. Et donc, c'est toute une chaîne. Donc, il y a le parent complice, conscient ou inconscient, il y a le trafiquant, il y a le pays d'accueil, il y a quelques personnes au sein du pays pourvoyeur qui facilitent la sortie de ces enfants. Donc, c'est toute une chaîne, comme vous l'avez dit, Jody.
Donc, c'est un gros business, alors, qui rapporte.
Oui, c'est un gros business, parce que selon la documentation que j'ai pu avoir à cet égard, il se fait que c'est en termes de millions de dollars que c'est chiffré. On dit même qu'après le trafic de la drogue et des armes, maintenant le business, le trafic le plus lucratif en troisième position, c'est celui des êtres humains, particulièrement des enfants.
Et comment on arrive à faire sortir ces enfants? Parce qu'il faut des passeports, il faut des visas, les amener à l'aéroport, tout ça, des billets. Je me demande bien comment ça se passe, ça se déroule. Dès qu'il y a des complicités à tous les niveaux.
Bon, j'ai failli dire que c'est là le mystère, je vous dis, mais comme on le sait tous, comme ce n'est pas un phénomène propre à notre pays. D'ailleurs, quand vous regardez l'historique du trafic d'enfants au niveau international, notre pays n'était pas cité au niveau de l'Afrique centrale. Il y avait d'autres pays comme le Gabon, la Guinée équatoriale, même le Congo d'en face, Brazzaville, etc. Ces phénomènes avaient déjà été stigmatisés par certaines organisations internationales comme la CEAC. Et chez nous, on ne nous citait pas beaucoup. Oui. Et petit à petit, le phénomène a gagné la République démocratique du Congo. Je crois que c'est avec le phénomène de la pauvreté généralisée. Oui. Et donc aujourd'hui, ça, dans des pays comme le nôtre ici, c'est certainement à cause des complicités à tous les niveaux.
On a même cité, j'ai entendu, certains agents des services de renseignements, des pasteurs, et même des agents assez à tous les niveaux.
Oui, je dis parce que particulièrement particulièrement au poste frontalier, n'est-ce pas, c'est là que se situent les ultimes contrôles. C'est soit parce que les agents qui sont à ces postes frontaliers ne sont pas suffisamment formés pour détecter ce genre de cas, mais aussi parce que, bien, avec un petit pourboire, etc.,
il
facilite la sortie des gens comme ça.
Alors, quelles sont les dispositions légales? Quelles sont les sanctions que la loi a prévues contre les coupables, les personnes coupables?
Eh bien, comme vous l'avez dit, Jody, ça c'est un phénomène très grave, le trafic et l'exploitation donc d'enfants. Mm-hmm. Quand vous allez dans notre code pénal congolais, son livre 2, eh bien, vous voyez qu'à l'article 174J, il est dit clairement que le trafic et l'exploitation d'enfants à des fins sexuelles est puni de 10 à 20 ans de servitude pénale. Lorsque le trafic a eu lieu, n'est-ce pas, dans le but d'utiliser ces enfants à des fins sexuelles, notamment la prostitution, et pour leur pour les faire travailler dans le domaine de la pornographie, par exemple. Oui. C'est 10 à 20 ans de servitude pénale. Nous avons l'article 162 de la loi portant protection de l'enfant, qui, lui, parle, cet article 162 de la loi portant protection de l'enfant, parle de traite en général et de vente d'enfants. Et là, c'est la même peine, 10 à 20 ans de servitude pénale, mais dans la loi portant protection de l'enfant, la peine est aggravée par une amende de 500 000 francs à 1 million de francs congolais. Donc, dans la loi portant protection de l'enfant, on est allé encore plus loin dans la répression que ce qui est prévu dans le code pénal.
Voilà, mais c'est une chaîne, le travail s'est fait en chaîne. Alors, qui est le premier coupable? Est-ce que tous seront punis par la loi de la même façon?
Bon, en principe, vous savez, comme c'est une chaîne, c'est-à-dire qu'il y a une répartition des tâches.
Oui.
Nous sommes là dans une hypothèse typique de coréité, c'est-à-dire tous ces gens-là sont des co-auteurs, chacun agissant à son niveau pour atteindre le même but, un même but qui est commun à tous. Bon, mais il y en a aussi qui ne sont que des facilitateurs, qui se rendent complices. Hein. On a dit, par exemple, tout à l'heure, des parents complaisants, qui pour des raisons de
pauvreté,
recherche d'argent facile, etc., facilite la tâche à cela. Alors si on est dans le cadre du groupe, de l'organisation mafieuse qui organise, eh bien ça sont des co-auteurs, ils seront punis du maximum de la peine qui est prévue par la loi. Bon, mais les complices vont subir la moitié de cette peine-là.
Et qui peut aller se plaindre pour un tel cas?
C'est tout citoyen. Hein. Tout citoyen a le devoir, n'est-ce pas, de dénoncer des cas comme ça, parce qu'un tel enfant qui est dans un processus de trafic pour être exfiltré, par exemple, du pays, est en danger hein, par rapport à sa vie d'abord, à son intégrité physique, morale, etc. Et donc...
Il semble que certains enfants, là où ils arrivent, les enfants sont battus, maltraités, violentés.
Exactement. Et lorsque vous avez connaissance d'un fait comme ça, je vous dis, si vous n'intervenez pas, ça veut dire que vous n'avez pas assisté une personne qui est en danger. Ça veut dire que donc c'est un devoir pour tout citoyen qui soupçonne, n'est-ce pas, une combine dans le but d'aboutir à un trafic d'enfants, de pouvoir les dénoncer auprès des autorités les plus proches.
Qu'est-ce que dit la loi congolaise sur les trafics d'enfants? Maître Guillaume Aléré, juriste indépendant et notre invité, des questions et préoccupations, composez le 081-890-63-94.
Vous êtes jeune? Vous êtes curieux? Nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, Actu People, emploi, environnement. Nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, Point de vue et Portrait de jeunes. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Que dit la loi congolaise sur le trafic d'enfants? Chomba Ngoy nous appelle de Kindu et Malonga est à Bandunduville. Chomba, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour tout à l'invité.
Bonjour. Oui, Chomba, on vous écoute.
Oui, monsieur Jody, moi je voulais dire ceci. C'est là d'abord ici au chômage. Vous savez, 80% de la population congolaise souffre de chômage. Alors, il faudrait d'abord, il ne faudrait pas s'attaquer d'abord aux conséquences, mais aux causes. Nous souffrons de chômage, monsieur le journaliste. Mais moi, je manque l'emploi. J'ai fait
Donc, tu peux vendre ta fille ou ton fils, ta fille à cause du chômage, pour aller vivre des telles situations. Bon, dommage, il n'est plus en ligne. Peut-être qu'il va nous rappeler. Malunga est à Bandundouville, bonjour.
Oui, bonjour. Là, vous me faites rire.
Je vous fais rire, pourquoi, Malunga?
Et mon confrère, là, il peut vendre ceci pour aller souffrir ailleurs.
Ah, ok, bon. On vous écoute.
Bon, pour moi, je dis aussi ceci. Est-ce que notre invité, que je salue aussi,
merci,
il peut nous éclaircir ce trafic? Parce que ici, moi, je suis dans la confusion. Il vient de nous expliquer là-bas, les enfants sont mis en otage, ils les font souffrir, ceci, cela. Est-ce que le trafic passe par la transaction entre le parent et les acheteurs? Ou bien, ce sont les acheteurs qui viennent forcer ce trafic au para. Encore, je demande ceci. Dans le monde, est-ce qu'il y a un pays qui favorise ce trafic? Parce qu'ici, chez nous aussi, nous avons le cas d'homosexualité. Ici, chez nous, en tout cas, c'est un pire, ça. Alors, si vous faites ça, vous êtes condamné. Mais ailleurs, il y a où l'homosexualité est autorisée. Est-ce qu'il y a aussi quelque part où on l'autorise, il y a les parents qui vendent leurs enfants? Et puis, la loi de là autorise cela.
D'accord, merci Malunga. Platini Mbombo est à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Platini, bonjour.
Bonjour, je dis Kachama. Bonjour également à tous les auditeurs de la Radio Capi, ainsi qu'à Maître qui est avec vous.
Merci beaucoup. Quelle est votre question, Platini?
Merci, je dis, et je reviens parler à mon ami qui vient de la payer à partir de Bandundu, qui dit que... Et il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de parents vendent les enfants. Et moi, j'ai une question, je dis, à vous poser, à Maître qui est présent avec vous. Et il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés à ce qui concerne la sexualité. Alors moi, je voudrais poser à Maître qui est là-bas avec vous, je dis, est-ce qu'il n'y a pas une loi qui est bien placée, bien basée pour que ces enfants-là arrêtent à faire la sexualité, je dis dans un cas seulement.
Non, de quel enfant? Parce qu'il y a un réseau des acheteurs, des gens qui viennent convaincre les parents pour amener leurs enfants ailleurs. On fait miroiter aux parents qu'on va les mettre dans des bonnes conditions. Et puis, voilà, la transaction est faite, les enfants partent. Mais les enfants vont découvrir d'autres réalités là-bas. Alors, pouvez-vous préciser votre question par rapport à ça, Platini?
Oui, je dis, c'est juste ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire, par rapport à ça, je dis... Parce que j'ai salué l'initiative, la loi portant trafic des enfants, tout ça. Et dans tous les cas, je dis, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de parents qui ne respectent pas les lois-là. Et les propriétaires de cette loi, c'est d'abord les enfants. Comme moi aussi, je vous parle, dans mon âge, je perds aussi enfants. Et si je peux dire bien. Et partout ailleurs, même si nous, l'enfant, on peut aller chercher l'emploi qui part, on dit que non. Vous n'êtes pas encore capable pour faire ce travail.
D'accord, alors, vous dites moi, que... Oui. Maintenant, la question, vous dites que beaucoup de parents ne respectent pas la loi portant protection de l'enfant. Maintenant, quelle est la question?
Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'enfants qui ne respectent pas la loi là. Alors, quelle loi prévue pour ces parents-là?
D'accord. Comme ces parents ne respectent pas cette loi, qu'est-ce qui est prévu? Merci. Ogi Bendelo, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous ceux qui sont présentement branchés et bon début de semaine à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Bien, allez-y.
Oui, j'ai une inquiétude par rapport au sujet, monsieur Jody, parce que vous savez, la fois passée à Kikwit ici, on avait arrêté un monsieur qui voulait faire cette transaction-là d'un enfant.
Oui.
Selon son témoignage, selon le témoignage des gens et de la maman de l'enfant, la maman disait que... il avait mis au monde cet enfant-là avec ce monsieur-là, alors que le monsieur l'avait oublié.
Oui.
Bon, je ne sais pas comment est-ce que le monsieur était parvenu à la connaissance de chercher l'enfant jusqu'à aller au village prendre l'enfant et pour le vendre, les gens avaient constaté. Mais le mal est que le monsieur était arrêté. Jusqu'au moment où je vous parle, monsieur, je dis tout le monde est étonné parce qu'on ne comprend pas quel est le sort de ce monsieur-là jusqu'à aujourd'hui. On l'avait amené où? Mais ce que je connais aussi dans mon territoire d'origine, c'est-à-dire à Gungu, il y a une pratique qui se fait par rapport à ce sujet-là. Alors, je voulais poser la question à l'invité.
Oui.
Quel est le sort qui est réservé aux gens qui sont arrêtés par rapport à cet acte-là? C'est ce que j'ai voulu savoir, monsieur Jody. Bonne continuation.
Merci. Adrienne de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à monsieur Guilain Maléré.
Bonjour.
Ma première question est de savoir, est-ce que ici chez nous, en RDC, l'État s'occupe chèrement des trafics des enfants? Et la deuxième, comment ces gens-là parviennent à convaincre les parents? En plus, ils ont toujours tendance à dire quoi? Si on prenne votre enfant, c'est juste pour aller le faire étudier. Et là, c'est sans donner quelque chose aux parents, car c'est en leur intérêt. Alors, à ce cas, j'aimerais savoir si les parents sont complices ou non. Merci, M. Jouti.
Bien, merci, Adrienne. Maître Guilain.
Merci beaucoup. Je commence par la plus récente des questions, celle d'Adrienne de Lubumbashi. Eh bien, elle est très intéressante parce qu'il veut savoir si les parents sont toujours complices ou bien parfois ils sont trompés. Mmh. Eh bien, c'est exactement ce que vous disiez, Jody, en début d'émission.
Oui.
Et il y a des cas où les parents sont naïfs. Sont naïfs tout simplement parce qu'ils sont dans une pauvreté telle qu'ils cherchent des voies de sortie. Et quelqu'un de bonne volonté, ça peut même être quelqu'un qu'ils connaissent, hein, un membre de famille lointain qui prétend qu'il vit en Europe dans de bonnes conditions et leur dit, écoutez, comme vous souffrez comme ça, donnez-moi un de vos enfants, je l'amène en Europe, et bien à terme, il pourra, n'est-ce pas, commencer à vous aider. Mmh. Et là, c'est naïvement, les enfants et les parents
acceptent.
Donc en ce moment-là, ils sont manipulés. C'est pour ça qu'on a dit que dans la définition du trafic, comme modalité, n'est-ce pas, d'accès aux enfants, il y a la ruse. Il y a aussi la ruse. Et donc, ces parents-là sont victimes de la ruse des trafiquants. Et la personne, on lui confie l'enfant tout bonnement, il ne donne effectivement rien. Mais lorsqu'elle arrive dans son pays où elle vit, soit en Europe, soit en Asie, oui. Eh bien, elle explique à l'enfant, écoute, ici, jeune homme, il faut se débrouiller, n'est-ce pas? Et commence à l'utiliser, soit elle-même l'utilise comme domestique, soit prête cet enfant à d'autres personnes qui ont besoin de ce genre de main-d'œuvre moins chère et non qualifiée, soit il amène cet enfant dans des réseaux de prostitution, parce que dans d'autres cieux, peut-être qu'ici, chez nous, ce n'est pas encore arrivé, mais il y a des perversions telles qu'il y a des adultes qui n'éprouvent de désir sexuel qu'envers des enfants, ce qu'on appelle des pédophiles.
Oui.
Et donc, il amène ses enfants dans ces réseaux de pédophilie et ça coûte beaucoup d'argent, ça lui rapporte beaucoup d'argent. À la limite, il peut même envoyer un tout petit peu à ses parents-là en leur disant, tiens, voici...
L'enfant va très bien, elle est étudie, elle est en bonne condition.
Oui, oui. Et les parents reçoivent de temps en temps une photo de l'enfant, plus une petite enveloppe, et ils croient que c'est comme on leur avait dit, que l'enfant est dans de bonnes conditions, etc. Et alors que le type, il faisait du trafic. Donc, Adrienne a raison, il peut arriver que les parents soient naïfs. Voilà pourquoi, dans la lutte contre ce phénomène là-bas, au niveau des instances internationales, on préconise la sensibilisation. La sensibilisation des parents pour leur dire que, attention, tout ce qu'on vous fait miroiter sur l'Occident et l'étranger n'est pas toujours vrai. Donc, cessez d'avoir comme rêve ultime le fait que vos enfants aillent en dehors du territoire national.
Voilà.
Alors, Ogi Bendelo de Kikwiti, qui parle du sort des trafiquants. Hein. Quel est le sort qu'on leur réserve finalement?
Les appeler les vendeurs des enfants.
Eh bien, c'est très clair. Nous avons évoqué tout à l'heure la loi en disant qu'ils sont punis de 10 à 20 ans de prison. Donc, ça peut aller entre 10 ans et 20 ans de prison, plus une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais. Donc, les peines prévues par la loi sont très lourdes. Bon, mais encore faut-il qu'on puisse appréhender ces gens, parce que, comme vous le savez, ce sont des gens qui sont très, très, très malins, qui s'entourent d'énormément de précautions et, malheureusement, cherchent des complices même au sein des services. Et donc, voilà, la loi a prévu des peines, mais encore faut-il que ces gens-là soient réellement appréhendés pour subir ces peines. Donc, ceux qui avaient été arrêtés, il a parlé d'une personne qui avait été arrêtée à Kikwiti, eh bien, normalement, la police, après avoir instruit les dossiers, devait transférer ce cas au parquet et le parquet au tribunal. Au moment où nous parlons, la personne doit avoir déjà été condamnée en train de purger sa peine.
Et j'imagine que les agents de l'État impliqués dans ce genre de trafic doivent être sévèrement punis.
Surtout, eux, c'est même une circonstance aggravante. Alors, c'est eux qui sont chargés de protéger les citoyens, mais c'est pour des gens comme ça, la peine est sévère. C'est à ce moment-là qu'on va vers des maximums, là, le maximum de 20 ans.
Mmh.
Alors, pour Platini Mbombo, de Mbandaka, j'ai commencé par les dernières questions en remontant.
Oui.
Eh bien, il parle de la vente d'enfants, mais il considère que certains enfants sont, il a appelé ça mûrs, hein, sexuellement. Moi, je pense qu'il voulait parler des enfants dévergondés, qui sont déjà de mauvaise conduite, hein, qui sont dans la déviance.
C'est ça.
Eh bien, ceci n'excuse pas le fait qu'on puisse faire un trafic d'enfants. Donc, à moins de 18 ans, on est enfant, et la loi portant protection de l'enfant est claire, la moralité de l'enfant sa conduite n'influe pas sur la sanction à infliger ou à ceux qui s'adonnent au trafic d'enfants. Donc ce n'est pas une circonstance c'est comme s'il
atténuante.
Voulait atténuante. Il voulait dire que bon, si l'enfant est déjà dévergondé,
oui.
Non, cela n'influe pas. Si la personne est attrapée, oui, quelle que soit la moralité de l'enfant, la personne sera sanctionnée, va faire la prison de 10 à 20 ans. Mm. Malonga Bandundu, Bandunduville, qui parlait de...
Il dit la transaction passe entre parents et acheteurs.
Oui.
Et y a-t-il pas des pays, est-ce qu'il y a des pays où cela est autorisé?
Exactement, exactement. Je vous ai dit tout à l'heure, je dis que dans le monde, en Asie, en Europe par exemple, il y a des enfants qui sont recherchés pour leurs organes. Il y a des enfants qui sont amenés comme ça, pour qu'on leur arrache un rein. N'est-ce pas?
Qu'on va les vendre quelque part.
Qu'on va vendre pour sauver d'autres enfants malades, etc. Et les trafics d'organes, ça coûte énormément cher. Et donc, il y a des réseaux qui recherchent de tels enfants. Alors, s'ils les recherchent chez eux là-bas, ils savent que là-bas, la police est vigilante, etc. Ils viennent dans des pays où la surveillance est faible, comme le nôtre ici. Ils prennent ces pauvres enfants là-bas et ils vont leur prélever des organes, un rein, que l'on donne à quelqu'un qui est malade pour le sauver. Donc, il y a des pays où il existe des réseaux. Ce n'est pas officiellement, ce n'est pas le pays qui organise ça, mais c'est des réseaux mafieux qui existent au sein de ces pays occidentaux et asiatiques notamment. Alors, Tchomba, enfin, Ngoï de Kindu.
Qui disait que c'est dû au chômage, si les parents vendent leurs enfants.
Jeudi, vous aviez répondu à cette question en lui posant une autre question.
Hein.
Il a tout de suite compris que non, il n'y a aucun parent, en principe, qui peut volontairement vendre son enfant. Et c'est souvent dû à une tromperie. Le parent est trompé, on lui fait miroiter un avenir meilleur pour son enfant et il le cède. Et malheureusement, ce qui arrive à l'enfant trop tard, tout le monde le déplore, mais il est déjà trop tard. Voilà, je dis.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site. Plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Que dit la loi congolaise sur le trafic d'enfants? Léon Chibungu nous appelle du Kasaï occidental. Léon, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Nkashama et bonjour à notre invité.
Votre question, Léon.
Je voudrais intervenir, je dis Daniel Nkashama, que nous avons de grandes difficultés ici au Kasaï. Moi qui vous parle, je suis un commandant sous commissariat dans les secteurs de Kibungu au Kasaï occidental. Chaque fois que nous appliquons la loi portant protection de l'enfant ici au Kasaï occidental, et en particulier dans notre cité de Kibungu, nous retrouvons taxés de tracasseurs et de policiers qui ne respectent pas la loi congolaise. Quelles dispositions que l'État congolais peut prendre pour que le peuple congolais arrive à respecter la loi pour la protection de l'enfant? Parce que nous voyons ici l'article 193 de la loi pour la protection de l'enfant, qui déclare que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public qui prend connaissance d'avis ou de mise en danger d'un enfant et qui s'abstient volontairement d'accomplir un acte de sa fonction ou de son emploi requis pour la circonstance est puni d'une amende de 100 000 à 250 000 francs congolais.
D'accord.
Nous demandons à l'État congolais de focaliser ses efforts. Comment on peut sensibiliser la population congolaise de respecter la loi ou de laisser la justice faire son travail chaque fois que la loi est violée? Je dis, je vous remercie, Daniel Nkashama.
D'accord, merci. Maître Guilain.
Oui, ça me réconforte énormément d'entendre parler un officier public. Donc, c'est un commandant des sous-commissariats qui dit que lui applique la loi portant protection de l'enfant. Ça fait plaisir à entendre parce que souvent, à l'intérieur, là, les représentants de l'État ne sont pas suffisamment documentés. Et vous sentez que celui-là, Monsieur Léon Chibungu, est vraiment plongé dans la loi. Il déplore maintenant que ceux qui sont censés en être bénéficiés, c'est-à-dire la population, accueille mal l'intervention de l'officier public qu'il est, c'est alors ça. Que c'est la loi qui lui donne cette mission. Effectivement, au niveau de Kinshasa, les autorités ont fait en sorte que, d'abord, les agents, les acteurs judiciaires, particulièrement ceux de la police nationale, puissent être formés. Ici, à Kinshasa, il y a eu suffisamment d'ateliers organisés, de séminaires, etc., qui fait que la police était suffisamment, à Kinshasa, formée sur ces choses. Mais l'État ne s'est pas limité à ça. Et l'État a favorisé, n'est-ce pas, une synergie entre la société civile et la police, de sorte qu'il y a aussi des sortes de séminaires mixtes où les représentants de la société civile viennent discuter avec les officiers de la police nationale pour pouvoir ensemble lutter contre tous ces phénomènes qui rentrent dans la protection de l'enfant.
Donc, il a parlé aussi de la sensibilisation.
Il est à souhaiter effectivement que les mêmes
communautés doivent être sensibilisées.
Il est à souhaiter que les mêmes actions soient menées à l'intérieur, mais vous savez, c'est parfois un problème de budget. Mais il y a des ministères provinciaux de la justice, du genre, protection de l'enfant, etc. Ça, c'est le rôle de toutes ces autorités provinciales-là, de pouvoir affecter une partie des moyens générés par les budgets provinciaux à la sensibilisation de la population pour que le travail, n'est-ce pas, des officiels soit facilité. Sa préoccupation est donc tout à fait légitime et c'est ça que recommandent justement les instances onusiennes par rapport à la lutte. La sensibilisation est mise au premier rang. Il a tout à fait raison, je dis.
Berry Franklin Lutchaka est en contact avec les auditeurs sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Alors, il vient de faire son entrée dans ce studio. Berry, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à tous.
Qu'est-ce que les auditeurs disent sur Facebook?
C'est plus la sensibilisation, comme vous venez de le dire. Nous avons par exemple Olivier Chipanda de Kananga. Il pense que notre gouvernement doit d'abord mettre en place une structure pour sensibiliser les familles afin de garantir la protection des enfants, car les enfants sont l'élite de demain et que la DGM aussi assume ses responsabilités. Passion Kafula de Manono se demande ce que fait exactement la DGM et les autres services concernés pour le contrôle des visas. Néanmoins, dit-il, s'il y aura complicité des parents géniteurs, que la loi protégeant les droits de l'enfant s'applique avec rigueur. Voilà. Enfin, Gilbert Stéric conclut que cette pratique cache un secret derrière, c'est-à-dire il y a toujours des Congolais qui accompagnent ce trafic. Voilà ces quelques réactions que nous avons pu retenir vu le manque de temps, et je vous informe qu'il y a plus de 250 personnes qui sont en train de suivre cette émission en direct sur la page Facebook de l'émission.
Voilà, merci beaucoup Berry, et merci à tous ces fidèles auditeurs qui sont connecté sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Alors, maître, vous avez suivi les différentes réactions. Un mot?
D'abord, je suis très content de voir que beaucoup de compatriotes sont sensibles à cette question, parce que ce qui favorise justement le travail des trafiquants, c'est l'indifférence générale. Les gens croient avoir d'autres priorités, mais oublient que l'avenir de ce pays, c'est notamment notre jeunesse, c'est notamment l'enfance d'aujourd'hui. Et donc, s'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de ce phénomène, ils seront eux-mêmes les premiers sensibilisateurs. Et donc, je suis tout à fait d'accord que la sensibilisation est très importante par rapport à la lutte contre ce phénomène de trafic d'enfants qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans notre pays. Et effectivement, il n'y a pas meilleur sensibilisateur que l'État, parce que l'État a en principe les moyens pour ce faire, notamment les médias publics qui peuvent arroser toute l'étendue de la République démocratique.
Et on a suivi la Direction générale des migrations et pointé du doigt dans cette affaire.
Oui, je dis...
Par les auditeurs.
Oui, bon, avant d'en arriver là, je voulais quand même dire que Radio Okapi est en train de faire sa part, à l'instant où nous parlons de ce sujet. Oui. Mais pour les agents de l'immigration, effectivement, nous l'avons dit, je dis tout à l'heure au cours de l'émission, que c'est au poste frontalier que s'effectuent les ultimes contrôles. Si le trafiquant a échappé à la vigilance de tout le monde, il est censé ne pas échapper à la vigilance des agents qui travaillent dans les postes frontaliers. Et qui dit poste frontalier parle de la Direction générale des migrations, qui fait ce qu'elle peut, mais je pense qu'il y a aussi un problème de formation de ces agents là-bas pour pouvoir détecter des cas suspects. Tout de suite, remarquer un enfant qui n'est pas à son aise, qui n'est pas dans son assiette, qui est avec une personne qui lui semble inconnue. On doit pouvoir former les agents à pouvoir détecter des cas suspects, à pouvoir interroger ces cas et à pouvoir tout de suite détecter les anomalies. Bon, il y a aussi le fait que l'on doit motiver ces agents. C'est le problème général dans le pays, celui du niveau des salaires. salaires. L'État devrait faire un effort pour améliorer en tout cas les salaires et les primes de certaines catégories, notamment dans le secteur des services, hein, des renseignements. Disons-le clairement, les services de l'ordre, je dis, on doit pouvoir faire un effort pour que les compatriotes qui travaillent dans ce secteur-là soient correctement rémunérés, pour ne pas être sujets à des tentations. Parce que c'est pour un petit rien, tout simplement, qu'ils baissent la vigilance.
C'est ça.
Et donc, les auditeurs ont tout à fait raison de souhaiter que la DGM soit plus vigilante, hein, fasse mieux qu'elle ne le fait donc actuellement. Voilà, je vous dis, je pense que globalement, je suis d'accord avec ces commentaires, il ne peut pas en être autrement. Mmh. Il faut renforcer la sensibilisation, il faut que l'État s'implique, à travers notamment les médias, n'est-ce pas, nationaux, mais à travers la formation de ces agents qui travaillent dans les postes frontaliers.
Tout à fait.
Mais
la société civile aussi,
la société doit, civile,
s'impliquer dans ça.
Donc ça concerne en fait toute la société. Je vous dis, comme je l'ai dit, Radio Okapi commence déjà à faire sa part. J'espère que ce n'est pas la dernière émission sur ce sujet.
Non, nous allons faire d'autres, produire d'autres émissions par la suite. Maître Guilhem Allaire, merci. Je rappelle que vous êtes juriste indépendant. Merci et bonne journée.
Merci à vous, Jody. Merci à toute l'équipe technique d'Okapi Service.
Okapi.